Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, sixième cassette, deuxième face, page 207. Deux hommes morts ? Que veut dire cela ? Dit le papa de Pierre. Ils ne sont pas morts, ils respirent, dit le papa de Jacques. Ah ! En voilà un qui vient de gémir, dit le jardinier. Du sang, une blessure à la tête, dit le cocher. Et l'autre aussi, même blessure, dit le papa de Pierre. On dirait que c'est un coup de pied de cheval ou d'âne. Oui, dit le papa de Jacques, voilà la marque du fer sur le front. Qu'ordonne ces messieurs, que veut-on qu'on fasse de ces hommes, demanda le cocher. Il faut les porter à la maison, dit le papa de Pierre. Attelez le cabriolet, c'est une petite voiture à cheval, et allez chercher le médecin. Nous autres, en attendant le médecin, nous tâcherons de leur faire reprendre connaissance. Le jardinier apporta un brancard. On y posa les blessés, et on les porta dans une grande pièce qui servait d'orangerie pendant l'hiver. Ils restaient toujours sans mouvement. Je ne connais pas ces visages-là, dit le jardinier, après les avoir examinés attentivement à la lumière. Peut-être ont-ils sur eux des papiers qui les feront reconnaître, dit le papa de Louis. On ferait savoir à leur famille qu'ils sont ici et blessés. Le jardinier fouilla dans leur poche, en retira quelques papiers qu'il remit au papa de Jacques, puis deux couteaux bien aiguisés, bien pointus, et un gros paquet de clés. Ah ! Ceci indique l'état de ces messieurs, leur profession, s'écria-t-il. Ils venaient voler, et peut-être même tuer.
Je commence à comprendre, dit le papa de Pierre. La présence de Cadichon et ses braiements explique tout. Ces gens-là venaient pour voler. Cadichon les a devinés avec son instinct accoutumé. Il a lutté contre eux, il a rué et leur a cassé la tête. Après quoi il s'est mis à brère pour nous appeler.
C'est bien cela, ce doit être cela, dit le papa de Jacques. Ah, il peut se vanter de nous avoir rendu un fier service, ce brave Cadichon. Viens, mon Cadichon, te voilà rentré en grâce cette fois. J'étais content. Je me promenais en long et en large devant la serre, pendant qu'on donnait des soins à Finot et à Passepartout. Le docteur Tudoux ne tarda pas à arriver. Les voleurs n'avaient pas encore repris connaissance. Il examina les blessures. « Voilà deux coups bien appliqués, dit le docteur Tudoux. On voit distinctement la marque d'un très petit fer à cheval, comme qui dirait un pied d'âne. Mais, ajouta-t-il en m'apercevant, ne serait-ce pas une nouvelle méchanceté de cet animal qui nous examine comme s'il comprenait ?
Pas méchanceté, mais fidèle service et intelligence, répondit le papa de Pierre. Ces gens-là sont des voleurs. Voyez ces couteaux et ces papiers qu'ils avaient sur eux.
Et il se mit à lire. Numéro 1. Château Herth. Beaucoup de monde. Pas bon à voler. Potager facile. Légumes et fruits. Murs peu élevés. Numéro 2. Presbytère. Vieux curé, pas d'armes. Servante sourde et vieille. Bon à voler pendant la messe. Numéro 3. Château de Sourval. Maître absent, femme seule au rez-de-chaussée, domestique au second, belle argenterie, bon à voler, tué si on crie. Numéro 4, château de Chandet, chien de garde vigoureux à empoisonner. Personne au rez-de-chaussée, argenterie, galerie de curiosités, riche et bijoux à voler, tué si on vient.
« Vous voyez, continua le papa, que ces hommes sont des brigands qui venaient dévaliser le potager faute de mieux. Pendant que vous leur donnerez vos soins, je vais envoyer à la ville prévenir le brigadier de gendarmerie. »
Le docteur Tudoux tira de sa poche une trousse, y prit une lancette et saigna les deux voleurs. Ils ne tardèrent pas à ouvrir les yeux et parurent effrayés de se voir entourés de monde et dans une chambre du château. Quand ils furent tout à fait remis, ils voulurent parler. « Silence, coquin !» leur dit M. Tudoux avec calme et lenteur. « Silence, nous n'avons pas besoin de vos discours pour savoir ce que vous êtes et ce que vous veniez faire ici. » Finot porta la main à sa veste. Les papiers n'y étaient plus. Il chercha son couteau et ne le trouva pas. Il regarda Passepartout d'un air sombre et lui dit à voix basse. « Je disais bien dans le bois que j'avais entendu du bruit. »«
Tais-toi, » dit Passepartout de même. « On pourrait t'entendre. Il faut tout nier. »«
Mais les papiers, ils les ont, » dit Finot.
« Tu diras que nous avons trouvé les papiers. »«
Et les couteaux. »«
Les couteaux aussi, parbleu. Il faut de l'audace. »
Mais qui est-ce qui t'a asséné sur la tête ce coup de massue qui t'a si bien engourdi?
Je n'en sais rien, ma foi. Rien. Je n'ai pas eu le temps de voir ni d'entendre. Je me suis trouvé par terre et frappé en moins de rien.
Et moi de même, il faudrait pourtant savoir si on nous a vu grimper au mur.
Nous le saurons bien. Ne faut-il pas que ceux qui nous ont assommés viennent dire comment et pourquoi.
Tiens, c'est vrai.
Jusque-là, il faut tout nier. Convenons à présent des détails pour ne pas nous contredire. D'abord, faisions-nous route ensemble. Où avons-nous trouvé les...
Séparez ces deux hommes, dit le papa de Louis. Ils vont s'entendre sur les comptes qu'ils nous feront.
Deux hommes saisirent Finot, pendant que deux autres s'emparèrent de Passepartout, et malgré leur résistance, ils leur garrottèrent les pieds et les mains et emportèrent Passepartout dans une autre salle. La nuit était bien avancée. On attendait avec impatience le brigadier de gendarmerie. Il arriva au petit jour, escorté de quatre gendarmes, car on leur avait dit qu'il s'agissait de l'arrestation de deux voleurs. Les papas de mes petits maîtres lui racontèrent tout ce qui était arrivé et lui firent voir les papiers et les couteaux trouvés dans les poches des voleurs.
« Ce genre de couteau, » dit le brigadier, « indique des voleurs dangereux qui assassinent pour voler, ce qui du reste est facile à voir d'après leurs papiers, qui sont des indications de vol à faire dans les environs. Je ne serais pas surpris que ces deux hommes fussent les nommés Finot et Passepartout, des brigands très dangereux, échappés des galères et que l'on cherche dans plusieurs départements où ils ont commis des vols nombreux et audacieux. Je vais les interroger séparément. Vous pouvez assister à l'interrogatoire si vous le désirez. »
En achevant ces mots, il entra dans la serre où était resté Finot. Il le regarda un instant et dit
« Bonjour, Finot. Tu t'es donc laissé reprendre ?»
Finot tressaillit, rougit, mais ne répondit pas.
« Eh bien, Finot, » dit le brigadier, « nous avons perdu notre langue. Elle était pourtant bien pendue au dernier procès. »«
En qui parlez-vous, monsieur ?» répondit Finot en regardant de tous côtés. « Il n'y a que moi ici. »«
Je sais bien qu'il n'y a que toi. C'est bien à toi que je parle. »«
Je ne sais pas, monsieur, pourquoi vous me tutoyez. Je ne vous connais pas. »«
Mais moi, je te connais bien, » répondit le brigadier. « Tu es Finot, échappé du bagne, condamné aux galères pour vols et blessures. »«
Vous vous trompez, monsieur. » Je ne suis pas ce que vous prétendez. Si bien savoir.
Et qui êtes-vous donc? D'où venez-vous? Où alliez-vous?
Je suis un marchand de moutons. J'allais à une foire, à Moulins, acheter des agneaux. En vérité, et votre camarade est-il aussi un marchand de moutons et d'agneaux? Je n'en sais rien, répondit Finot. Nous nous étions rencontrés peu d'instants avant d'avoir été attaqués et assommés par une bande de voleurs.
Et ces papiers que vous aviez dans vos poches?
Je ne sais seulement pas ce que c'est. Nous les avons trouvés pas loin d'ici et nous n'avons pas eu le temps d'y regarder.
Et les couteaux?
Les couteaux étaient avec les papiers.
Tiens, c'est de la chance d'avoir trouvé et ramassé tout cela sans y voir. La nuit était bien sombre.
Aussi est-ce le hasard, dit Finot. Mon camarade a marché dessus, cela lui a semblé drôle. Il s'est baissé, je l'ai aidé, et en tâtonnant, nous avons trouvé les papiers, les couteaux, et nous avons partagé.
C'est malheureux pour vous d'avoir partagé, dit le brigadier. Ça fait que chacun avait de quoi se faire fourrer en prison.
Mais vous n'avez pas le droit de nous mettre en prison. Nous sommes d'honnêtes gens.
C'est ce que nous verrons et ce ne sera pas long. Au revoir, Finot. Ne vous dérangez pas, ajouta-t-il, voyant que Finot cherchait à se lever de dessus son banc. Gendarme, veillez bien sur monsieur afin qu'il ne manque de rien. Et surtout, ne le quittez pas des yeux. C'est un Finot qui nous a échappé plus d'une fois.
Le brigadier sortit, laissant Finot abattu et inquiet. Pourvu que Passepartout dise comme moi, pensa-t-il. Ce serait bien la chance qu'il dit de même. En voyant entrer le brigadier, Passepartout se sentit perdu. Il regarda d'un air indifférent le brigadier qui l'examinait attentivement.
« Comment vous trouvez-vous ici, blessé et garrotté ?» dit le brigadier.
« Je n'en sais rien, » répondit Passepartout.
« Vous savez bien qui vous êtes, où vous alliez, par qui vous avez été blessé ?»«
Je sais bien qui je suis et où j'allais, » répondit Passepartout. « Mais je ne sais pas qui m'a brutalement attaqué. »
Alors, procédons par ordre conséquemment et subséquemment. Qui êtes-vous?
Mais est-ce que ça vous regarde? Répondit Passepartout. Vous n'avez pas le droit de demander aux gens qui passent qui ils sont.
J'en ai si bien le droit que je mets les menottes à ceux qui ne me répondent pas et que je les fais mener à la prison de la ville. Je recommence. Qui êtes-vous?
Je suis un marchand de cidre.
Votre nom, s'il vous plaît.
Robert Partout. P-A-R-T-O-U-T.
Et où alliez-vous, monsieur Robert Partout?
Un peu partout. Acheter du cidre là où on en vend.
Vous n'étiez pas seul, vous aviez un camarade?
Oui, c'est mon associé, nous faisions des affaires ensemble.
Vous aviez les papiers dans vos poches? Savez-vous ce que c'était que ces papiers?
Passepartout regarda le brigadier. Il a lu les papiers, se dit-il. Il veut me mettre dedans, c'est-à-dire m'attraper. Mais je serai plus fin que lui. Et il dit tout haut.
Si je le sais, je crois bien que je le sais. Des papiers perdus par des brigands, sans doute, et j'allais porter à la gendarmerie de la ville. Et comment avez-vous eu ces papiers?
Nous les avons trouvés sur la route, mon camarade et moi. Nous les avons regardés, et nous étions pressés de nous en débarrasser, c'est pourquoi nous marchions de nuit.
Et les couteaux, demanda le brigadier, les couteaux qu'on a trouvés sur vous?
Les couteaux, nous les avions achetés pour nous défendre. On nous disait qu'il y avait des voleurs dans le pays.
Et comment et par qui vous êtes-vous trouvé blessé, votre camarade et vous?
Précisément par des voleurs qui nous ont attaqués, sans que nous les ayons vus.
Tiens, très intéressant.
Finot n'a pas dit comme vous.
Finot a eu si peur qu'il a perdu la mémoire. Il ne faut pas croire ce qu'il dit.
Je ne l'ai pas cru non plus, d'un pas davantage que je ne crois à ce que vous me dites vous-même. L'ami passe partout, car je vous reconnais bien à présent. Vous vous êtes trahi.
Passepartout s'aperçut de la bêtise qu'il avait faite en reconnaissant que son camarade s'appelait Finot. C'était un surnom qui lui avait été donné au bagne pour se moquer de son peu de finesse. Quant à Passepartout, son vrai nom était Partout. Et un jour qu'on se pressait pour passer au réfectoire, pour le déjeuner, Finot s'écria « Passepartout ». Le nom lui en était resté. Il n'y avait plus moyen de nier. Il ne voulait pourtant pas avouer. Il prit le parti de hausser les épaules en disant « Mais est-ce que je connais Finot, moi ? C'était pas malin de deviner que vous parliez de mon camarade. Je croyais que vous l'appeliez Finot pour vous moquer. »
« C'est bon, tournez cela comme vous voudrez, » dit le brigadier. « Il n'en est pas moins vrai que vous voyagez pour acheter du cidre avec votre camarade, que vous avez trouvé vos papiers sur la route, que vous les portiez, après les avoir lus, à la ville, chez les gendarmes, que vous avez acheté vos couteaux pour vous défendre contre des voleurs, que vous avez été attaqué et blessé par ces mêmes voleurs. N'est-ce pas ça ?
Oui, oui, c'est bien mon histoire, dit Passepartout.
Dites donc votre conte, votre histoire menteuse, car votre camarade a dit tout le contraire.
Que vous a-t-il dit ? Demanda Passepartout avec inquiétude.
Il est inutile que vous le sachiez pour le moment. Quand on vous aura ramené au bagne, il vous le dira.
Et le brigadier sortit, laissant Passepartout dans un état de rage et d'inquiétude facile à concevoir.
Pensez-vous, docteur, que ces hommes soient en état de marcher jusqu'à la ville ?
Demanda le brigadier au docteur Tudoux. Je pense qu'ils y arriveront en ne les poussant pas trop, répondit M. Tudoux avec lenteur. D'ailleurs, lors même qu'ils tomberaient en route, on pourrait toujours les ramasser et les étendre dans une voiture que l'on irait chercher. Mais la tête est endommagée par le coup de pied de l'âne. Ils pourraient bien en mourir dans 3 ou 4 jours. Le brigadier était embarrassé. Quoique les prisonniers ne lui fissent éprouver aucune pitié, il était bon et il ne voulait pas les faire souffrir sans nécessité. Le papa de Pierre et de Henri, voyant son embarras, lui proposa de faire atteler une carriole. Le brigadier remercia et accepta. Quand la carriole fut amenée devant la porte, on y fit entrer Finot et Passepartout, chacun d'eux se trouvant entre 2 gendarmes. De plus, on avait eu la précaution de leur attacher les pieds afin qu'ils ne puissent pas sauter de la carriole et s'enfuir. Le brigadier, à cheval, marchait à côté de la carriole et ne perdait pas de vue ses prisonniers. Ils ne tardèrent pas à disparaître et je restai seul devant la maison, mangeant de l'herbe, en attendant avec impatience la promenade de mes petits maîtres et surtout de mon petit Jacques que je désirais revoir. Le service que je venais de rendre devait m'avoir fait pardonner ma méchanceté passée. Quand le jour fut venu tout à fait, que tout le monde fut levé, habillé, eut déjeuné, un groupe se précipita sur le perron. C'étaient les enfants. Tous coururent à moi et me caressèrent à l'envi. Mais entre toutes les caresses, celles de mon petit Jacques furent les plus affectueuses. « Mon bon cadichon, disait-il, te voilà revenu. J'étais si triste que tu fusses parti. Mon cher cadichon, tu vois que nous t'aimions toujours. »
« Il est vrai qu'il est revenu très bon, dit Camille. et qu'il n'a plus cet air insolent qu'il avait pris depuis quelque temps, reprit Madeleine, et qu'il ne mord plus son camarade ni les chiens de garde, dit Élisabeth.
Et qu'il se laisse sceller et brider très sagement, répondit Louis.
Et qu'il ne mange plus les bouquets que je tiens dans la main, dit Henriette. Et qu'il ne rue plus quand on le monte, dit Jeanne.
Et qu'il ne court plus après mon poney pour lui mordre la queue, s'écria Pierre.
Et qu'il a sauvé tous les légumes et les fruits du potager en faisant attraper les deux voleurs, dit Jacques. Et qu'il leur a cassé la tête avec ses pieds, ajouta Henri.
Mais comment a-t-il pu faire prendre des voleurs, dit Élisabeth.
On ne sait pas du tout comment il a pu faire, dit Pierre. Mais on a été averti par ces braiements. Papa, mes oncles et quelques domestiques sont sortis et ont vu Cadichon allant et venant, galopant avec inquiétude de la maison au jardin. Ils l'ont suivi avec des lanternes et ils les ont menés au bout du mur extérieur du potager. Ils ont trouvé là deux hommes évanouis et ils ont vu que c'étaient des voleurs. Mais, dit Jacques, comment ont-ils pu voir que c'étaient des voleurs? Est-ce que les voleurs ont des figures et des habits extraordinaires qui ne ressemblent pas aux nôtres?
Ah, je crois bien que c'est pas comme nous, s'écria Élisabeth. J'ai vu toute une bande de voleurs. Ils avaient des chapeaux pointus, des manteaux marrons et des visages méchants avec d'énormes moustaches.
Où les as-tu vus? Quand cela? Demandèrent tous les enfants à la fois.
Je les ai vus l'hiver dernier au théâtre.
Ah, quelle bêtise, dit Henri. Je croyais que c'était de vrais voleurs que tu avais rencontrés dans un de tes voyages. Et je m'étonnais que mon oncle et ma tante n'en eussent pas parlé.
Certainement, monsieur, ce sont des vrais voleurs. Et les gendarmes se sont battus contre eux, les ont tués et ont fait prisonniers. Et ce n'est pas drôle du tout, j'avais très peur. Et il y a eu de pauvres gendarmes blessés.
Tu es sotte, dit Pierre. Ce que tu as vu, c'est ce qu'on appelle une comédie qui est jouée par des hommes qu'on paie et qui recommence tous les soirs.
Comment veux-tu qu'ils recommencent puisqu'ils sont tués?
Mais tu ne vois donc pas qu'ils font semblant d'être tués ou blessés et qu'ils se portent aussi bien que toi et moi.
Alors, comment papa et maison ont-ils reconnu que ces hommes étaient des voleurs?
Parce qu'ils ont trouvé dans leur poche des couteaux à tuer des hommes et... Comment est-ce que c'est fait, des couteaux à tuer des hommes, demanda Jacques. Mais, dit Pierre, comme tous les couteaux. Alors, dit Jacques, comment sais-tu que c'est pour tuer des hommes? C'est peut-être pour couper leur pain. Oh, tu m'ennuies, Jacques, dit Pierre. Tu veux toujours tout comprendre et tu m'as interrompu quand j'allais dire qu'on a trouvé des papiers sur lesquels ils avaient écrit qu'ils voleraient nos légumes, qu'ils tueraient le curé et beaucoup d'autres personnes. Et pourquoi ne voulaient-ils pas nous tuer, nous autres? Demanda Jacques.
Parce qu'ils savaient que papa et mes oncles sont très courageux, s'écria Élisabeth. Ils ont des pistolets ou des fusils et que nous les aurions tous aidés.
Oh, tu serais d'un fameux secours en vérité, dit Henri, si on venait nous attaquer.
Je serais tout aussi courageuse que vous, monsieur, et je saurais bien tirer les voleurs par les jambes pour les empêcher de tuer papa. Voyons, voyons, vous discutez pas, dit Camille, et laissez Pierre nous raconter ce qu'il a entendu dire. Nous n'avons pas besoin de Pierre pour savoir ce que nous savons déjà, répondit Élisabeth.
Alors pourquoi, dit Pierre, me demandez-vous comment papa a reconnu les voleurs? Monsieur Pierre, monsieur Henri, monsieur Auguste vous cherche, dit le jardinier qui venait d'apporter la provision de légumes pour la cuisine. Où est-il? Demandèrent Pierre et Henri. Dans le jardin, messieurs, répondit le jardinier. Il n'a pas osé approcher du château de peur de se rencontrer avec Cadichon. Je soupirai et je pensais que le pauvre Auguste avait raison de me craindre depuis le triste jour où j'avais manqué de le noyer dans un fossé de boue après l'avoir fait égratigner dans les ronces et les épines et l'avoir fait rudement tomber en mordant son poney. Je lui dois une réparation, me dis-je. Comment faire pour lui rendre un service et lui montrer qu'il n'a plus de motif de me craindre? Fin de la deuxième face de la sixième cassette, page 221, Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur.